Explore, un podcast de l'Église évangélique réformée de Suisse pour découvrir l'Église qui arrive et un monde transformé par la foi.
Bienvenue à vous tous et toutes dans ce quatrième épisode d'Explore où je suis avec Sophie et Dimitri. Salut Sophie.
Salut.
Et salut Dimitri.
Salut Elio.
On se retrouve une deuxième fois, ben voilà, on les enregistre en séance groupée ces épisodes. Là, aujourd'hui on est à Berne, dans nos studios à l'ERS. Et puis, pour ce quatrième épisode, on va s'attaquer à une figure qu'on a déjà évoquée beaucoup quand même dans ces trois premiers épisodes, c'est Jésus. Jésus, on a vu qu'il apparaissait un peu comme un point de référence régulier, et une phrase qui m'avait beaucoup marqué, c'est cette idée que dans la foi, il se passe quelque chose dans le regard de Jésus. Enfin, quelque chose comme le regard de Jésus jouait un rôle important dans nos discussions. Et puis je me suis dit, on s'est dit, qu'il serait peut-être bien qu'on se frotte un peu à cette figure et au rôle qu'elle joue pour la foi chrétienne. Et c'est moi qui me colle à vous proposer la chronique à ce sujet. On y va. Dimitri, Sophie, est-ce que la phrase « What would Jesus do ?» ça vous dit quelque chose ?
Oui. Va. J'ai une vague idée.
Une vague idée, toi Dimitri ?
Moi non.
Non, sérieux ?
Oui, sérieux.
Mais pourtant, je pensais que le plus âgé d'entre nous saurait.
Écoute, non, je sais pas.
Alors, what would Jesus do ? En bon français, qu'est-ce que ferait Jésus ? En fait, ça renvoie à cette phrase à un mouvement qui a émergé dans les années 90, qui s'est bien développé jusque dans les années 2010, où on trouvait des chrétiens avec des bracelets qui avaient cette phrase en fait autour du poignet. What would Jesus do ? Ça vient d'un mouvement de jeunes issus d'églises réformées, mais aux États-Unis, et qui a eu un certain succès. Et vous pouvez trouver justement l'acronyme WWJD à peu près à toutes les sauces, sur des chaussures, sur des t-shirts, enfin ça faisait un bon truc marketing, ce « What would Jesus do ?». Alors ça s'est développé dans ce milieu plutôt de jeunesse chrétienne, je dis réformée, mais peut-être que chez nous ça serait quand même plus associé à des mouvements évangéliques. Mais voilà, ça vient quand même d'un terreau de groupes de jeunes réformés initialement. Mais ce slogan, en fait, a une histoire plus ancienne. Voilà, c'est pas juste un slogan qu'on a trouvé dans les années 90. Ça vient plutôt fin 19e siècle par un pasteur qui s'appelait Charles Sheldon, lui aussi un réformé, qui a été important dans tout ce qui était ce qu'on appelait le christianisme social ou le social gospel, c'est-à-dire un christianisme qu'on dirait de gauche, même si les conservateurs au niveau de sa théologie, il est plutôt de gauche, donc social, solidaire, dans son engagement. Et puis son idée, au fond, c'était de dire que Jésus, c'est un exemple moral. C'est l'exemple moral absolu, c'est celui, quand je le regarde, je découvre comment je dois agir et ce que je dois faire. C'est lui qui agit bien, en gros, c'est l'exemple parfait. Et puis il a eu cette idée, du coup, de dire, au fond, tout chrétien devrait tous les jours, avant chaque action, se poser cette question, mais que ferait Jésus dans cette situation ? Et au fond, vraiment, tous les matins, t'es appelé à méditer cette idée, ok, aujourd'hui, que ferait Jésus ? Moi, dans ma situation dans laquelle je me trouve, être chrétien, ça signifie se poser cette question. Que ferait Jésus ? What would Jesus do ? Ça fonctionne peut-être un peu comme un mantra, hein, mais ça renvoie aussi à... Ça exprime bien cette idée que Jésus, c'est au fond là que je découvre comment je dois vivre. Et il me semble que ça rejoignait quand même un tout petit peu, en tout cas quelque chose qui apparaissait dans les discussions qu'on a eues avant. Et puis voilà, ben ce mantra de Charles Sheldon avait eu un certain succès à un moment donné, ça a été repris plus tard, ben forcément avec toute une dimension d'identité qu'on peut lier du coup à ce « What would Jesus do ?». On pourrait tout faire une histoire sur comment le slogan au fond participe aussi d'une espèce d'une génération chrétienne et de son identification. Notamment avec le branding et puis tous les goodies qui vont avec. Mais au fond, c'est quelque chose qui revient quand même régulièrement dans l'histoire du christianisme, cette idée qu'on doit imiter Jésus, peut-être on peut le dire comme ça, c'est vraiment un truc ancien. Alors ce que je trouve intéressant en me penchant un peu sur cette histoire du « What would Jesus do ?», c'est que dans le cas de... du christianisme social, on est vraiment orienté sur le faire avec les autres, l'action envers autrui, essayer de aussi transformer quand même un peu le monde. Mais dans le passé, par exemple, dans le Moyen-Âge, cette imitation du Christ était surtout centrée sur l'intériorité. L'idée, imiter le Christ, ça ne m'amène pas du tout à agir dans le monde, ça m'amène plutôt à une transformation intérieure, spirituelle, détachée, en fait, des problématiques sociales, par exemple. Juste pour dire que, voilà, un slogan ne veut pas forcément dire la même chose selon la période à laquelle on le dit. Mais voilà, si on reprend ce slogan, cette idée que j'ai peut-être un bracelet qui me rappelle, certains ont des croix, voilà, d'autres ont des bracelets, un bracelet qui m'invite à me poser cette question tous les jours, ben voilà, face à ce que je suis amené à vivre aujourd'hui et à faire, il faut que je me pose la question, mais que ferait Jésus ? Je voulais vous demander à vous deux, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Est-ce que ça rejoint votre manière de vous rapporter à Jésus, de faire ça ? Au fond, est-ce que c'est ce que vous faites tous les matins ? Est-ce que vous vous posez tous les matins à méditer, qu'est-ce que ferait Jésus aujourd'hui, si je dois me mettre à son école ? Donc voilà, c'est ce que j'aimerais vous inviter à un peu à échanger là autour pendant ce temps de chronique. Ouais, Sophie, est-ce que tu es d'accord d'esquisser un bout de réponse à ma question ?
Ouais, je trouve intéressant. Je reconnais une forme d'intuition à laquelle je peux tout à fait adhérer dans ce mouvement. L'idée que, bah voilà, qu'on se met en mouvement. Avec quelque chose de commun par rapport à la vie du Christ, par rapport à cette idée en fait que bah en fait Jésus c'est notre maître, donc on a quelque chose à suivre comme exemple. Après où j'adhère pas du tout, c'est la notion de réduire en fait la question à quelque chose de moral.
Moral au sens de faire le bien.
Exactement. Ouais. Je pense que ça participe à une action éthique, l'idée qu'on se met en route à la suite du Christ. Et puis pour moi, il y a quelque chose de particulier dans l'idée, bien sûr il faut faire comme Jésus, mais la question c'est pas qu'est-ce que Jésus ferait, c'est qu'est-ce que moi je fais dans la situation, en tant que chrétienne et devant Dieu. Donc là, je verrais une forme de décalage aussi, par rapport à ça, typiquement quelque chose qui est tout à fait mis à l'écart, par exemple, si on dit tout le temps, si on focalise que sur la figure de Jésus, bah moi je suis une femme, peut-être que je ferais quelque chose de différent de Jésus. Voilà, parce que les problématiques qui viennent à moi sont pas les mêmes. Il y a aussi la question du décalage temporel. Donc là, il y a un élément. Après, j'ai trouvé vraiment intéressant quand t'as parlé aussi de la question de l'imitatio Christi.
Ouais.
Parce que en fait, ouais, pour moi, ça vient compléter cette vision quelque part un peu sur le plan éthique,
ouais,
et on retrouve à la fois la dimension intérieure et extérieure, et on retrouve, voilà, en ayant ces deux aspects là, il y aurait peut-être la figure du mystique. Pour moi, Jésus, ouais, est un mystique. Il nous propose un chemin de spiritualité qui passe par une forme de cheminement intérieur, mais qui rejaillit aussi sur l'extérieur. Et avec ces deux éléments, je me retrouve déjà un peu plus que si on réduit la chose à une dimension morale, même si, bien sûr, pour moi, le cheminement à la suite du Christ, le cheminement spirituel, bah, il t'amène à t'engager aussi dans la société pour plus de justice, par exemple.
Mais du coup, parce que moi, ça me pose un peu... Je rebondis là-dessus parce que je suis pas sûr de tout à fait, du coup, comprendre... Enfin, peut-être tu pourrais juste en dire un peu plus sur si il ne s'agit pas juste de limiter one-to-one, un à un, ce qui fait, parce qu'au fond, bon, ok, tu dis que c'est pas possible. Après, on pourrait aussi dire... l'autre option, c'est celle du What Would Jesus Do, c'est qu'on doit imiter le maître, on se conforme à lui, on est transformé par lui, on devient de plus en plus lui. Comment ça marche pour toi, concrètement, cette référence à Jésus ? Enfin, si tu dis sur ce plan intérieur, extérieur, ok, je vois, ça m'amène peut-être à agir d'une certaine manière avec autrui, mais aussi à être d'une certaine manière, en profondeur. Et concrètement, tu fais ça comment ?
Bah, pour moi, c'est justement cette notion aussi de spirituelle, de se laisser habiter par par la parole, par la présence de Dieu. Et il y a cette idée là quand même de moi ce qui est un élément de réponse. Alors pour moi, Jésus, c'est celui qui a réussi à quelque part ou à à qui il a été donné, le fait que Dieu habite profondément en lui. Mmh. Et en fait, Dieu habite tellement en lui qu'il est son fils, quelque part. Mmh. Enfin, il y a cet enjeu-là. Et nous aussi, on est appelés à vivre ce cheminement de transformation intérieure aussi. Donc, il y a effectivement quelque chose à se mettre en route à la suite de... et qui, pour moi, se vit dans la pratique spirituelle, dans l'engagement, dans la communauté, ouais. dans tout ça, quoi. Pour moi, c'est vraiment la notion spirituelle, en fait.
Qui est en avant.
Oui.
Parce que ce qui moi, me met un peu le doute là-dedans, c'est au fond, et dans toute cette idée, je suis pas contre, hein, moi, enfin, je trouve... Peut-être dans l'idée d'une appropriation créative, pour moi. C'est-à-dire, je suis à l'écoute du maître qui ne m'appelle pas à redupliquer ce qu'il fait de 1 à 1. Et d'ailleurs, c'est même pas sûr que, typiquement, l'idée d'une interprétation de la loi dans la tradition juive, c'est même pas sûr qu'il faille le comprendre tel quel. Enfin, l'idée que c'est une application pure et simple. Il y a une partie de ça, mais c'est sûrement doute pas que ça. Du coup, aussi, l'enseignement de Jésus, c'est pas juste de l'application pure et simple. Peut-être qu'il y a une partie d'application aussi. On pourra en reparler, mais surtout, ce que le slogan, pour moi, enfin, il induit un peu en erreur, c'est une espèce de rapport d'immédiateté à Jésus. Enfin, je sais pas, j'ai pas accès à cet enseignement immédiat, en fait. Qu'est-ce que ferait Jésus? C'est, ok, je vais aller lire les textes, mais au fond, c'est déjà une sélection de toute une tradition. Enfin, on parle de quel Jésus, quoi? Est-ce que je parle du Jésus de l'Église, c'est-à-dire d'un Jésus qui a quand même aussi beaucoup d'une construction par une tradition, quoi, qui a témoigné, qui a rajouté des choses aussi de qui a été le Jésus historique, ou est-ce que je dois le prendre au sens littéral? Non, il faut que je retourne à l'enseignement de ce monsieur à l'époque, et quand je saurai exactement ce qu'il a dit, hein, quand je saurai exactement quel était l'enseignement qu'il a dit à ces personnes qui étaient là, alors je serai sur la bonne voie. Enfin voilà, je trouve que le What Would Jesus Do, il tient pas, enfin, il peut en tenir compte, hein, mais il y a un peu plus d'ambivalence, à mon avis. Et justement, ce que tu décris, en fait, de l'écart de l'appropriation, pour moi, c'est beaucoup plus fidèle, en fait, à cette tradition d'une écoute constamment renouvelée, d'un enseignement aussi qui évolue dans ce qu'il t'amène à faire dans le concret, parce que la situation a changé. La situation des chrétiens n'est plus la même quand tout d'un coup l'empereur reconnaît que le christianisme et la foi chrétienne, c'est une religion d'empire. Il y a tout qui bouge à ce moment-là.
Au-delà de ça, il y a quand même quelque chose... La vie de Jésus, c'est une histoire. Ouais. La vie de Jésus, c'est une progression. Il a une enfance, on a quelques éléments dans la Bible autour de l'enfance. On voit qu'il évolue aussi au fil de sa prédication. Il y a des moments forts, comme son baptême, la transfiguration, sa mort, la résurrection. Les stigmates, par exemple, c'est une trace du fait que, bah oui, il y a un avant et un après, et cet après, il efface pas ce qui s'est passé. Donc, c'est impossible de parler de Jésus sans raconter sa vie. Et moi, là, il y a déjà un bout de réponse. Si ça s'incarne dans une histoire, alors mon histoire est différente de celle de Jésus, c'est tout.
C'est drôle parce que tu mets en avant l'histoire, mais on aurait pu aussi se limiter genre aux enseignements.
Bah justement, ouais. Pour moi, la foi chrétienne, c'est là peut-être la différence aussi avec un sage de façon un peu abstraite ou comme ça. C'est incarné dans une vie et dans une narration et dans une spiritualité. Donc il y a toutes ces notions-là qui font que c'est pas juste une série d'enseignements, en fait.
Jésus. Ou de miracles, enfin, ou de... Ouais, ok. Ouais.
Oui, on est dans... il est pleinement humain, et il est donc incarné dans une histoire, etc. Mais il y a aussi cette dimension un peu divine, tout simplement. Ou pas simplement du tout, on est d'accord.
Non,
part, c'est là où ces deux notions-là vont se rencontrer, et qui font que c'est pas juste n'importe quel sage qui prêcherait une philosophie.
Ouais. Je pense qu'on va... Du coup, là, on saute sur la place de Dieu en Jésus. Je pense qu'on va encore évoquer ça après. Mais peut-être, Dimitri, du coup, je me tourne un peu vers toi sur... On a brassé un peu déjà des choses, mais si je reviens là sur cette idée du What Would Jesus Do, ce que tu peux un peu en faire, toi?
Oui, merci. Je suis très reconnaissant de la discussion que...
Ça te donne des idées. Mener.
Ça m'a donné quelques idées, bien sûr. Au fond, en fait, la question est intéressante. Qu'est-ce que ferait Jésus si on ne sait pas ce qu'il ferait, en fait, C'est-à-dire que la question est intéressante s'il n'est pas une idée claire de ce qu'il ferait.
Ouais.
Parce qu'on... Et c'est là où, en fait, peut-être qu'à ce moment-là, c'est un questionnement plus fondamental. Qu'est-ce que ferait Jésus dans cette situation ? En fait, ça ouvre un champ d'interpellation, d'investigation, et ça ne me donne pas une solution, en fait. Contrairement à ce que le présupposé, en fait, laisserait entendre. C'est-à-dire qu'en fait, au contraire, ça ouvre un nouveau champ d'interprétation de l'action.
Ben, par exemple, Jésus, je ne sais pas, aujourd'hui, l'avortement en grande thématique qui divise les chrétiens, Jésus ne pouvait pas vraiment se poser la question comme nous, on se la pose aujourd'hui.
Oui, et dans n'importe quelle situation, finalement.
Ouais.
On ne sait fondamentalement pas. Puisqu'en fait, du fait de l'incarnation, de son humanité, on sous-entendrait qu'il y aurait quelque chose de prophétique ou quelque chose de contre-intuitif dans son action. C'est pas quelque chose qui serait de l'ordre, on va dire, des conventions. Si on veut vraiment aller sérieusement du côté, tu sais, d'une « qu'est-ce que ferait Jésus ?», il y a des épisodes quand même où il dit des choses qui sont complètement contre-intuitives par rapport à la famille, par rapport, je sais pas, à la religiosité, par rapport... Donc en fait, ça mettrait les personnes qui voudraient vraiment le faire en situation quasi prophétique et paradoxale quant à la situation. Donc on ne sait pas, et c'est peut-être pour ça que se poser la question de cette manière est intéressante. Mais il faut ne pas savoir et laisser le champ ouvert et ensuite ne pas essayer d'aller trop loin parce que... l'idée aussi, c'est la question qui est derrière, c'est jusqu'où je suis prêt à le suivre. C'est-à-dire, jusqu'où est-ce que je suis prêt à aller dans cette idée que je me fais de Jésus ? Est-ce que je vais aller jusqu'à la croix ? Est-ce que je vais aller jusqu'au sacrifice ? Parce qu'en fait, Jésus, fondamentalement, s'est sacrifié, s'est offert pleinement. Et d'ailleurs, les dimensions de l'imitatio Christi au Moyen-Âge, elles prenaient cette dimension-là. Elles n'étaient justement pas moralistes au sens du « qu'est-ce que je ferais ici et maintenant dans et le quotidien ?» Mais c'était vraiment comment mon corps assume cette dimension sacrificielle parce qu'en fait, les sacrements eux-mêmes n'arrivent pas à combler le manque.
Ah, avec des trucs, si on pense à ça, je pense à Angèle de Foligno, qui va jusqu'à l'extrême, où les deux, d'ailleurs, aspects extérieurs et intérieurs se lisent. Une personne qui va aller rendre visite à des lépreux, notamment, pour... Maintenant, je ne sais plus si elle en prend soin, mais en tout cas, elle va rendre visite à des lépreux. Et puis, la dimension corporelle s'exprime jusque dans le fait qu'elle va aller boire l'eau qu'elle a utilisée pour nettoyer, en fait, les lépreux et donc s'incorporer une partie de leur douleur, j'imagine. Enfin, pour le corporel qui rejoint le don de soi. Quoi.
Ouais, je pense que c'est un bon exemple. Hein. Ouais. On peut penser aussi à Bonnefer, en fait, quand on parle de la suivance.
Figure importante figure du protestantisme, Dietrich Bonhoeffer.
Et qui est allé quelque part jusqu'au bout, et c'est une dimension sacrificielle qui est indiquée dans cette recherche du Christ.
Mais qui est du coup autre chose, effectivement, que simplement se limiter à agir juste ou à agir bien au quotidien. C'est, on va jusqu'au, il y a une espèce de jusqu'au boutisme, c'est ça ?
Oui, et c'est parce qu'il y a ce jusqu'au boutisme que je ne sais pas.
Ok, ça m'empêche de saisir, en fait.
Exactement, ça m'empêche de m'en saisir comme si c'était, en fait, un petit conseil pratique du quotidien. Et puis, en fait, il y a cette double dimension. Alors, peut-être qu'il y a une forme de simplicité dans la question, mais cette question, je n'en ai pas la... Enfin, Jésus n'est pas la... Enfin, est une réponse, mais n'est pas une réponse définitive, mais elle est ouverte, et elle peut aller très très loin.
Oui, sans doute, parce que, justement, les réponses qu'il donne s'inscrivent dans sa vie en général. Enfin, elles font sens quand on regarde son parcours de vie. Je me posais une question par rapport à ça. J'aimerais qu'on parle après de quel rôle joue Dieu là-dedans, parce que tu l'as évoqué, Sophie, mais il y a une question entre deux pour moi qui vient. C'est que je vois, en tout cas moi, dans mes milieux chrétiens, il y a quand même deux, trois phrases de Jésus qu'on va mettre particulièrement en avant. Par exemple, cette idée, je vous donne un commandement nouveau. Je vais vous dire, alors l'amour de votre prochain, l'amour de Dieu, ça vous connaissez, c'est dans votre tradition, dans le judaïsme. Par contre, maintenant, je vais vous demander d'aimer vos ennemis. Ou ça, et il y a aussi l'amour, la possibilité d'un amour réciproque dans la communauté qui suit cette logique de jusqu'au bout, mais le commandement nouveau, c'est quand même est-ce que c'est le commandement nouveau ? Ou en tout cas, l'amour des ennemis, on met énormément l'emphase là-dessus dans les milieux dans lesquels je suis, comme une spécificité de Jésus, et là, pour moi, quand on parle de ça, en fait, on le prend souvent comme un truc, faut l'appliquer, quoi. Donc, Alors, c'est pas une solution, hein, c'est un commandement. L'amour, ça me dit ce que je dois faire. Ça me donne sans doute une direction. Mais du coup, j'ai quand même plus... Est-ce que c'est une ouverture ? Enfin, ouais, je me posais la question comment... est-ce que ça marche encore, ce que tu dis sur l'ouverture, sur le fait qu'il y a une incertitude aussi ? Comment ça marche pour ces idées de commandement, en fait, et d'orientation qu'on trouve, et puis tout d'un coup que... Voilà, nous, on va porter en tant que chrétien, avec là, oui, ben voilà, l'amour des ennemis, c'est fondamental, c'est ce qui va nous... C'est ce qui va aussi peut-être nous différencier, j'en sais rien. Ouais, je voulais vous entendre un peu là-dessus.
Ben, disons que l'amour des ennemis est justement comme commandement d'amour, en plus, parce qu'il y a toujours ce paradoxe, hein, encore, de commander l'amour. Enfin, c'est ce qu'on dit très souvent aussi dans le champ de l'amour du prochain. L'amour ne se commande pas. Et en fait, l'amour des ennemis, encore moins. Ça indique probablement pas forcément la nécessité de le performer, mais ça indique quelque chose de la surabondance de l'amour de Dieu et de la possibilité qu'un événement nous arrive qui nous mène à ce point même qui serait d'en arriver à aimer son ennemi. Ouais. Et ça, c'est pas quelque chose dont on décide quelque part. C'est quelque chose qui est sous l'égide, à mon sens, de la surabondance et de la grâce. Ouais. Et ça indique plus une opportunité, une possibilité, une potentialité que véritablement une sorte d'objectif en soi. Tu sais, comme si c'était vraiment un commandement et qu'on allait prendre sur nous-mêmes. Ou alors transformer le concept d'amour à tel point qu'il en deviendrait une forme de rationalité. Au fond, c'est toujours... Du point de vue de la rationalité, même ses ennemis, il faut les intégrer, il faut pouvoir discuter avec, faut pas faire preuve de trop de pathos.
Oh, oui, non, et puis
tu vois ce que je veux dire. On peut aussi, ouais. Hein, ça a été fait hein, d'ailleurs dans la tradition philosophique, on a relu l'amour du prochain à l'aune d'un amour qui était tout à fait universalisable, ouais. Et qui n'avait plus de dimension pathologique. Donc du coup, je pense que si on veut rester sérieux avec cette injonction-là, elle doit rester de l'ordre de l'événement.
Ouais, ça, je sais pas. J'hésite. Je vois ce que tu veux dire sur le côté inappropriable. Et en même temps, je me dis, ça c'est aussi quelque chose qui va... Si je me dis que je vais essayer de prendre au sérieux cette phrase-là, ça va quand même avoir un effet dans mes relations et dans ma manière d'aborder des conflits.
Oui, mais tu pourras pas te forcer d'aimer tes ennemis. Ce ne serait plus des ennemis si tu les aimes. La tension, elle va rester.
Ouais, moi, je partage aussi un petit peu cette vision autour du paradoxe, enfin, c'est hyper clair quand on lit chez Luc le sermon dans la plaine et chez Matthieu le sermon sur la montagne.
Donc des moments forts de l'enseignement de Jésus, hein, justement.
Exactement, où en fait, quelque part, il y a une part d'inatteignable. Et je pense que ça, c'est aussi un truc réformé quand on parle de la question de « on est tous pécheurs ». C'est en fait reconnaître qu'on n'arrivera pas jusque-là.
Ou en tout cas, épuiser le sens.
Non, pas épuiser le sens. Simplement, moralement, éthiquement, on n'y arrivera pas. Enfin, je crois que c'est illusoire de dire ça. Même les grandes figures... on parle de Martin Luther King, par exemple, qui est un exemple de personne qui a réussi à inspirer, à vraiment acter quelque chose au niveau éthique. Même lui, c'est une figure, si tu vas creuser un peu sa vie personnelle, etc., il y a de l'ambivalence. Bennefer, il était jeune, il est mort sous le nazisme, enfin, il y a quelque chose...
C'est facile à héroïser,
en fait. Oui, exactement. Ouais. Et la tradition réformée va te dire, attention, même ces figures-là, c'est des humains, ils sont pris dans le même réseau de paradoxes, de boue en fait. Donc il y a ce truc un peu impossible à atteindre, et en même temps, pour moi, être chrétienne, c'est aussi être habité par ce désir, par cet horizon, ce commandement, en fait, cette injonction. Elle te dit, l'idéal, il est là, ton travail en tant qu'humain, c'est de tendre vers ça. T'es appelé à ça. Et y a, pour moi, il y a cet élan. Et quand on dit se mettre à la suite du Christ, c'est aussi cette démarche-là. Et à ce moment-là, il y a aussi... Enfin, pour moi, si tu te fixes un horizon, le but, c'est quand même de marcher dans cette direction. Donc, tu as aussi un appel à qu'est-ce que tu fais pour au fond te mettre à la suite du Christ. Et là, peut-être qu'on revient un petit peu à la question de la vie chrétienne. Il y a quand même quelque chose à faire. Il y a quand même peut-être une discipline à avoir. Et pour moi, c'est faire de la place pour Dieu dans sa vie.
Ouais. Ben, allons là-dessus, maintenant sur Dieu. Parce que, alors, allez, durant la période quand on lit les textes des évangiles, quand on dit que notamment le Verbe s'est incarné, des phrases comme ça, ou qu'on voit la présence de Dieu en Jésus, et notamment dans son enseignement, c'est quand même dans cette manière de dire que c'est un des aspects de l'identité de Jésus, c'est que la sagesse divine en lui est entièrement présente. Et quand de l'écouter, c'est vraiment écouter la sagesse divine, mais ce qui d'ailleurs est associé... Par exemple, dans l'Ancien Testament, il y a cette figure de Moïse qui est super importante, qui donne la loi et l'enseignement de Dieu pour son peuple, à partir duquel celui-ci peut vivre son alliance avec son Dieu et être qui il doit être, etc. etc. Jésus, il fait ça aussi, et c'est pour ça qu'on reconnaît une part de divin en lui. Enfin, c'est un des aspects, en tout cas, de pourquoi finalement l'Église amène à dire qu'il est pleinement humain, pleinement divin. C'est notamment parce qu'on lui reconnaît d'être porteur de la sagesse de Dieu. Voilà. C'est pas, ça épuise pas tout, mais c'est un des aspects. Est-ce qu'on a besoin de ça aujourd'hui ? Enfin voilà, est-ce que quel est le rôle de Dieu en lien avec la figure de Jésus pour vous ? Peut-être si on a encore peut-être deux mots à dire là-dessus, parce que voilà, aujourd'hui cette année, quand on enregistre cet épisode, c'est notamment un jubilé très important autour notamment de cette affirmation qu'il est pleinement Dieu et pleinement humain, une affirmation qui lie les chrétiens entre eux, mais qui a fait aussi beaucoup de polémiques. Je veux dire, dans l'histoire notamment dans les histoires du protestantisme récentes, finalement, on s'est contenté de voir en Jésus un humain vachement bon. Enfin, c'est un bon exemple, quoi. Mais on n'a pas besoin de voir Dieu en lui. Et est-ce que dans ce que tu as dit sur le côté paradoxal, oui, l'amour, au fond, je vois que je suis mis soit face, je dois assumer une forme d'échec sans être dans de la résignation, ou sur les aspects paradoxaux de l'amour que tu as mis de l'accomplissement de l'amour que tu as mis en avant juste avant, Dimitri. Voilà, est-ce que Dieu joue un rôle là-dedans, quoi ? Enfin...
Ben, je dirais que si vraiment on prend en sérieux la figure du Christ, c'est que lui seul en a été capable, puisqu'en fait, il est une figure de la réconciliation.
C'est un exclusivisme ? Il est exclusif ?
Non, c'est pas un exclusivisme, c'est qu'en fait, il nous montre une voie. C'est-à-dire qu'en fait, il nous ouvre un champ de possible, du point de vue narratif, de la pensée, mais aussi existentiel. C'est-à-dire que oui, quelque part, du fait de son incarnation, quelque chose peut être réconcilié, y compris l'ennemi. Mais c'est lui qui le porte et qui l'incarne et et qui l'indique. Son exception est bien là, dans cette capacité qu'il a de surmonter les paradoxes de notre propre condition. Mais maintenant, il ne vient pas résoudre nos propres contradictions, il ne vient pas résoudre la condition humaine. Il vient la réconcilier avec Dieu et avec cette promesse de réconciliation. Donc c'est pour ça que c'est une figure d'exception, en fait, aussi, que le Christ. Et en fait, peut-être que c'est déjà un élément de réponse qui n'est pas encore tout à fait satisfaisant, mais avec justement ce que tu indiquais entre cette part divine et humaine. C'est que...
Ce n'est pas des parts, il est entièrement l'un et l'autre.
Exactement, justement, d'autant plus qu'il réconcilie le fini et l'infini quelque part dans cette figure dans sa vie.
Ouais, alors moi je rejoins tout à fait et une des affirmations qui m'a permis de surmonter, parce que moi clairement avant dans mon autre vie avant que je sois chrétienne, avant que je me convertisse, pour le dire de façon juste, c'était vraiment un des trucs où j'étais genre là, mais enfin, comment est-ce qu'on peut dire que ce gars était Dieu ? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est complètement con. Et ça ne fait pas sens intellectuellement parlant. Et une des choses qui a fait que j'ai pu adhérer, c'est marrant parce qu'on en a discuté il n'y a pas longtemps avec Dimitri, on a parlé du livre de Bergson, les deux sources de la morale et de la religion.
Un philosophe français important du siècle passé, ouais.
Bergson. Exactement. Et lui, il parle tout à fait... De cette notion-là, il dit au fond, c'est parce que Jésus a réussi à incarner totalement ce que c'est que d'être pleinement humain, donc avec cette injonction à finalement pousser l'amour du prochain jusqu'au bout, reconnaître l'humanité en l'autre, en fait, reconnaître profondément l'humanité de l'autre, que, en fait, c'est exactement la même chose que de dire qu'il est Dieu. Mmh. C'est ça qui nous permet de lui dire, de dire qu'il est Dieu. Et moi, ça a été un déclic complet, cette notion-là. De dire, ok, d'accord, en fait, ça veut dire quoi être Dieu, c'est au fond être 100% humain. Mmh. Et voilà, nous, on affirme en tant que chrétiens que c'est le seul qui a réussi à faire ça. Mmh. Alors après, Bergson, où c'est intéressant, c'est qu'il a aussi toute cette notion de travail sur la mystique. Pour lui, Jésus, c'était un mystique, ce qu'il appelle un mystique complet. Et du coup, qui a réussi ce cheminement, finalement, à accomplir ce cheminement. Et ce qui n'exclut pas que dans d'autres religions, il y a eu aussi d'autres personnes qui réussissent à accomplir ce cheminement-là. Et en fait, il y a une pluralité qui s'ouvre aussi autour de ça. Et pour moi, ça a été vraiment, vraiment précieux de comprendre ça. Et c'est en lien avec, avec ces questions, vraiment.
Mmh. Ok, merci. Je crois qu'on va maintenant prendre le temps d'une petite pause et on va écouter les capsules et on va voir dans quelle direction ça relance un peu notre échange. Aujourd'hui, j'ai posé la question « Qu'as-tu appris de Jésus ?» à deux personnes, à Lucas Borcard, qui est étudiant en philosophie, et puis à Chloé Cherpillot, qui est théologienne et qui est en train d'entreprendre une thèse en théologie pratique. On les écoute.
Ce que Jésus m'a appris, c'est une forme d'exigence et une forme d'effort, de ne pas aller vers ce qui est le plus facile, que ce soit le jugement, ou la haine, ou la vengeance. Donc de ne pas voir la paille dans l'œil de l'autre si on ne voit pas d'abord la poutre dans le nôtre. Pareil avec la femme adultère. Donc cette facilité à juger, cette facilité à haïr nos ennemis. Mais au contraire, ce que m'a appris Jésus, c'est l'idée de vouloir toujours aller au-delà de ce qui est impulsif et instinctif. En quelque sorte, cet apprentissage de l'amour, comme le bon samaritain par exemple, nous pousse vraiment à aller au-delà, à faire des efforts sur ce chemin qui n'est pas du tout facile et qui n'est pas du tout évident a priori. Et en ce sens-là, c'est essayer de suivre l'exemple de Jésus pour obtenir cette sagesse qu'il possède.
Ma réponse peut paraître un peu bateau, mais ce serait l'énergie et la force qui ressort d'un groupe. Être en groupe permet d'avoir plus d'influence, de pouvoir aller plus loin, d'être plus fort. Je me dis que Jésus sans ses apôtres ne serait pas allé bien loin. Ils ont cru en lui et le lui ont montré. Je pense que c'est une belle image de ce que peut être une relation amicale. Je suis l'apôtre de mes amis, ils sont mes apôtres. Je crois en eux et ils croient en moi. Nous sommes les fondements les uns des autres. Ensemble, nous sommes plus forts et nous allons plus loin. L'Ecclésiaste 4, verset 9 dit « Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. »
Merci Lucas et Chloé pour vos capsules, pour vos paroles pour nous. Et puis, je voulais tout de suite rebondir sur celle de Lucas. Parce que dans la discussion qu'on a eue tout à l'heure, je disais, bon, je vois la visée, je vois le point un peu, l'accomplissement du paradoxe, l'ouverture qui en même temps me met en chemin et m'échappe. Ce que j'ai apprécié ou ce que je retrouve, et qui me semble important quand même aussi dans ce qu'a dit Lucas, c'est quelque chose comme une intensité, un effort, un chemin de transformation. Alors l'exigence, forcément, hein, c'est ambivalent, ça peut devenir la source, enfin, c'est pas un problème, mais on peut pas tout de suite arriver au moment de la révélation mystique, de l'ouverture totale, quoi. Et je trouve, dans ce que Jésus... Ben, il y a peut-être ça, de chez Jésus, quelque chose de l'ordre du mystique, et en même temps, il y a quelque chose d'un être humain qui s'engage, qui lutte pour quelque chose, pour une visée, pour qui sue pour ça, qui s'engage pour ça, et Ouais, je trouve des fois à parler de mystique trop rapidement, on oublie le chemin qu'il y a au milieu, quoi. Et je trouve que le texte de Lucas, en tout cas, sa proposition remet ça en avant, quoi. Vas-y, Sophie.
Ouais, en t'entendant, ça me fait un petit peu réagir. En fait, tu pointes du doigt une dérive possible.
Ouais.
Qui est celle, le reproche qu'on fait aux ermites ou à certains ordres priants qui se retirent du monde, prient, etc. Et finalement, de dire, ouais, mais quel est le soin vraiment que vous prenez pour le monde, au-delà de la division qui fait que certains prient et puis d'autres travaillent. Et ça, c'est aussi une critique que le protestantisme a formulée. Cette division trop grande, en fait, entre deux parties du ministère de Jésus ou deux parties de l'appel de Jésus. Et en t'entendant, moi, ça me faisait penser à ce texte. Alors oui, Jésus s'est tu pendant un certain temps. Il a commencé à prêcher. Il était déjà adulte, enfin, quelque part. Donc, il y a un ministère limité dans le temps. On voit qu'il se retire à des moments, mais il reste engagé quand même dans la vie. Et il y a ce texte avec, qu'on appelle avec la syrophénicienne, cette femme non-juive qui s'adresse à Jésus pour lui demander de l'aide, et il la remballe à fond.
Au début, en tout cas.
Au début. On essaye tout le temps de minimiser cet épisode-là.
C'est hyper violent, parce que c'est une question, elle demande à manger, et puis on donne pas de la nourriture aux chiens.
Donc il y a une violence aussi dans ce côté-là. Donc on voit que lui aussi se débat, en fait, avec quelque chose d'humain, quelque chose qui leur retiendrait. Et il y a cet appel à... Enfin, il n'est pas complètement parfait, il est aux prises avec l'humanité, il s'énerve des fois contre les disciples, il a besoin de se retirer du monde quand il pète un câble au temple, et puis qu'il renverse les tables, etc. Il y a aussi ce côté, probablement tu vas au temple pour te ressourcer, puis en fait... il est mis face à ce que c'est pas vraiment, et puis il pète un câble. Enfin, ça reste une forme de débordement, en fait. Donc, toi, tu mets l'accent sur ça, sur dire, OK, on doit faire face à ça, à la situation telle qu'elle est. On doit être aux prises concrètement avec le monde. On peut pas juste suivre un chemin où on se retire, où finalement, on fait plus rien. Quelque part.
Oui, parce que le discours sur l'ouverture, il peut vraiment générer ça, au final, une forme de retrait, quoi, paradoxalement.
Enfin, désengagement.
Ou de désengagement.
Ouais. On attend d'être parfait avant de faire quelque chose, quoi.
Par exemple, ouais. Ou bien, des fois, c'est aussi mené... Alors ça, c'est peut-être un peu provoquant ce que je dis, mais c'est des fois mené à vouloir écouter tellement tout le monde dans une situation de conflit qu'en fait, on n'avance plus sur le conflit. Et voilà, donc je pense que là, voilà, il y a un bout d'intensité au milieu de... qui est du registre d'un apprentissage de l'amour, peut-être. Alors, aussi paradoxal soit-il au final, mais il y a quelque chose à apprendre, qu'on éprouve, qu'on traverse, quoi.
Ben, c'est intéressant parce qu'on a fait un peu un chemin mystique dans notre discussion. Dans le sens où on est parti de quelque chose qui mettait l'accent sur l'action. Ensuite, on s'est dit non, mais quand même, on ne peut pas réduire à l'éthique, il y a un bout de contemplation, etc. Et le cheminement mystique, c'est tu reviens, et c'est ça qu'il appelle un mystique complet. Bergson, tu reviens au monde et voilà, t'as part au monde et t'es pas là pour te désengager. À mon avis, on progresse. Enfin, il y a vraiment cette notion là. Et en fait, c'est quelque chose qu'on doit faire constamment. Et on revient à la question de la vie chrétienne, à mon avis. Tout n'est que engagement, retrait, réengagement, aussi pour garder des forces, aussi pour continuer à grandir spirituellement, etc.
Comme un mouvement de respiration.
Ouais, moi je le vois comme ça. Il y a cette injonction aussi à dire, quand Jésus nous dit « va prier dans ta chambre », c'est aussi probablement... Alors oui, il y a la question de l'hypocrisie, etc. Mais il y a cette question du retrait pour mieux revenir, s'engager dans le monde.
Je me tourne vers toi, Dimitri, par rapport à ces deux capsules, un élément qui te ressort.
Oui, déjà, je rejoins ce qu'a dit Sophie, mais du coup, je ne vais pas revenir dessus. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé, en tout cas, la première. On parlera peut-être aussi de la deuxième. Mais la première, l'idée que ça puisse être une sagesse pratique au quotidien. Ça rejoint aussi le souci qu'on avait tout au début de la discussion, c'était par rapport à ce bracelet. Et en fait, cette personne a choisi ce qu'elle prenait ou ce qu'elle prenait pas de Jésus. Et elle a pris la meilleure part dans tout ce qui a trait, on va dire, à une pratique de la vie chrétienne, dans l'humilité, une certaine forme de sagesse, le non-jugement. Je pense effectivement, ça fait partie des exigences quelque part de cette vie chrétienne déjà. C'est en tout cas un premier pas vers l'acceptation de l'autre, de sa différence. Parce que c'est vrai que la grande tendance que nous avons facilement dans le champ de la morale ou de l'éthique, c'est le jugement. C'est se juger soi-même, c'est juger les autres, c'est l'évaluation permanente des uns et des autres. Et c'est vrai qu'il traduit là un des premiers pas positifs pour le coup, et qui va aussi au-delà d'une certaine moralisation de la vie, puisqu'en fait il s'agirait de suspendre. Donc si les personnes qui portent ce bracelet se disent au fond qu'est-ce que ferait Jésus, c'est vrai que je penserais que ce serait un premier pas intéressant que de se dire au fond il juge pas. Déjà ça. Qu'on serait pas dans les jugements à l'emporte-pièce, que
ça va pas trop vite,
qu'il y a pas d'automatisme, exactement, qu'on n'est pas dans les petits automatismes, on va dire, des conventions, des morales conventionnelles, etc.
Ou alors, en tout cas, pour celui où le moment où Jésus se laisserait prendre sur un automatisme, il se fait reprendre tout de suite.
Exactement.
L'exemple de la Syrophénicienne, ce serait ça. Hein.
Oui, où il est dépassé lui-même par la réponse que lui fait cette femme.
Qui est un acte de foi, en l'occurrence, de la part
qui est un acte de foi bien plus profond que tout ce qu'il pouvait imaginer à ce moment-là. Il est dépassé sur sa gauche et sa droite, là, Jésus. Et c'est vrai, et ça montre, je pense que c'est un bon exemple qui montre bien son aveuglement aussi en tant qu'humain par moment. Et puis là, oui, la Syrophénicienne, c'est un magnifique épisode où les miettes, c'est déjà toute la grâce, en fait.
Je voudrais revenir sur ce que Chloé a apporté. Moi, j'entends dans ce qu'elle a dit sur le rôle du groupe, sur la force du groupe, sur ce qu'on apprend aussi de la vie de Jésus en termes de dynamique de groupe, ce que ça génère, ce que ça collectivise. D'ailleurs, on peut se dire que c'est un succès énorme de se dire qu'un mec et ses disciples, après, ça devient une religion mondiale qui s'étend sur 2000 siècles. C'est quand même assez fort comme performance. Maintenant, j'irais un tout petit peu plus loin, dans le sens qu'il y a aussi un bout de... pour moi, c'est en lien avec l'apprentissage de l'amour et l'apprentissage de l'amour dans la communauté, notamment dans la mesure où c'est aussi un groupe d'amis où ça ne marche pas toujours, quoi, Jésus et ses disciples. C'est un groupe où il y a des tensions, c'est un groupe où ils ne se comprennent pas toujours, c'est un groupe où, pile au moment où Pierre, une grande figure de ce groupe, reconnaît que Jésus est le Christ, le Sauveur, la présence de Dieu sur terre, et que Jésus dit « moi je vais aller mourir », et que Pierre dit que « non, surtout pas », à ce moment-là, Jésus le traite de Satan. Ce que je veux dire, c'est à la fois, c'est un moment magnifique de reconnaissance, et de l'autre côté, c'est un moment de rupture totale entre les amis, quoi. Et en fait, ce qui se passe dans la suite de l'histoire, c'est que d'une part, on va jusqu'au bout des amis qui se dissolvent, et qu'en même temps, c'est pas la fin de cette amitié, de cette communauté. Et je trouve que ça, justement, c'est là où quelque part, l'enseignement et l'histoire se rejoignent. C'est-à-dire que l'histoire de Jésus nous montre que ce qu'il a vécu avec les siens ne se limite pas à ce qu'il a vécu avec les siens. Je ne sais pas comment dire ça, il y a un plus. Il y a une communauté, une amitié, une vie qui continue au-delà d'une part de l'échec de ce groupe d'amis, parce qu'à un moment donné, ça a eu échec, et de la mort du leader charismatique, quoi, en gros, ou des leaders charismatiques.
Ce que tu dis m'interpelle.
Ouais, vas-y.
Ce qui se passe entre Jésus et les apôtres, première question, est-ce que c'est vraiment une histoire d'amitié? Le terme n'apparaît jamais.
Je vous appelle mes amis. Ah, si, il apparaît, le terme.
Le terme filia.
Les
termes en grec.
Mais il y a. Maintenant, je vous appelle mes amis. Serviteur et maître au départ, et je crois que c'est dans l'évangile de Jean, maintenant je vais vous appeler mes amis.
D'accord, alors je suis rassuré que ça apparaisse. Parce que c'est pas une tonalité c'est une tonalité que j'aime sincèrement. Et je pense qu'effectivement une église, c'est une communauté qui est appelée à être une communauté d'amis, ça j'en suis persuadé, au sens noble de l'amitié et large. Mais c'est vrai que j'ai de la plus de difficultés à faire une analogie forte du point de vue des disciples à faire comme si c'était une communauté d'amis avec des... On a l'impression quand même qu'il y a une prépondérance forte, hein, de Jésus dans ce groupe, très forte, qu'il est quand même le maître. et qu'en fait, ils sont tous à des échelons de compréhension, des degrés. Ils ne sont pas dans un rapport horizontal de groupe d'amis. Ça donne pas, en tout cas, ça ne me donne pas ce sentiment.
Ouais, alors moi, j'ai travaillé un petit peu cette question-là. Et une des choses qui émergeait, c'était justement cette idée que... Alors bien sûr, on doit se mettre à la suite de Jésus, il y a ce rapport, c'est un maître, etc. Mais il y a un peu cette idée aussi que pour que les disciples comprennent, il faut qu'ils meurent. Mmh. Pour que le message qu'ils transmettent aboutisse quelque part, il faut qu'ils disparaissent. Et ce qui les fait devenir émerger en tant que disciples du Christ ressuscité, mais aussi quelque part, on pourrait dire... adultes dans la foi et aptes à être des sujets à leur tour.
Sujet comme Jésus lui-même l'a été pleinement.
Exactement. Ouais. Sujet devant Dieu, peut-être moins dépendant de l'image du maître, etc. C'est la mort de Jésus. Et c'est une manière de lire finalement la vie du Christ comme un accomplissement vers l'amitié, justement, vers une relation qui est autre que simplement, oui, on te suit aveuglément. Ouais. Et moi, je trouve ça vraiment très fort au niveau... C'est une manière de voir la vie de Jésus d'une autre manière que cette théologie souvent ultra sacrificielle et hyper sombre.
Il a tout fait pour nous.
Voilà. Ouais, mais c'est, il est mort parce que, putain, il comprenait rien. Ils étaient là à dire, ouais, le royaume, tu vas le faire émerger dans le monde... peut-être par les armes, faire la révolution, devenir le roi, etc. Et il se dit, non, mais en fait, la seule solution pour qu'ils comprennent ce que j'essaye de dire, ce que j'essaye d'incarner dans mon message, dans ma sagesse, dans mes enseignements, je dois aller jusqu'au sacrifice ultime pour qu'ils comprennent que bah, c'est pas ça. C'est pas
par la force,
devenir le sauveur au sens concret du terme et puis restaurer le royaume d'Israël. C'est pas ça, c'est le don de soi, c'est l'amitié et y a des philosophes qui ont théorisé l'amitié, enfin c'est pas juste un sentiment un peu niais, c'est très puissant comme force de vertu en fait. Et pour moi, c'est une autre manière de concilier finalement aussi ces notions, de dire ok, il y a une forme d'éthique, il y a une figure divine, enfin qu'est-ce qu'on fait de tout ça, et je trouve que c'est assez fort cette vision des choses.
Ça rejoint aussi la deuxième question que j'avais en fait par rapport à cette, c'était en fait la dimension de la créance, c'est-à-dire que je m'appuie, c'est-à-dire qu'en fait il y aurait dû quelque chose de cette relation à Dieu, donc au Christ, à chaque fois que j'en m'en ramène à l'autre. Sous-entendu que le lien lui-même, dans son intensité, dans ce rapport, est la traduction fondamentale que c'est indépassable, que nous en remettons les uns aux autres, constamment.
Mais parce que, fondamentalement, je ne peux que m'en remettre à Dieu.
Voilà, exactement.
Enfin, y a tout d'un
coup... Quand elle parle d'énergie, c'est ça qui est pointé. C'est-à-dire qu'en fait, le rapport à Dieu est si profond...
Constitutif de qui je suis.
Exactement, si constitutif qu'en fait, dans chaque rapport d'amitié, c'est ça qui se joue. Et en fait, là, du coup, ce champ de relationnel à Dieu occupe tout l'espace des relations sociales.
C'est d'ailleurs, bon, enfin bref, là on va peut-être un peu vite, mais l'idée de la présence de l'esprit comme présence de Dieu, elle s'exprime, à mon sens, pour moi, c'est une manière de la comprendre. Oui. Hein. C'est pas la seule.
On peut refluer dans les deux sens. Soit on réduit, soit on élargit complètement.
Tu vois. Bon, là j'ouvre une autre porte. Mais je trouve pas mal, parce que c'est vrai que là on voit comment, précisément ce que tu viens de dire, là, l'enjeu de la relation entre le Père et le Fils est au fond une relation tellement intime dans le registre mystique. Bref, je répète ce que tu dis, devient aussi le critère de mesure ou la qualité visée ou un horizon d'interprétation, d'action pour... les relations plus horizontales et d'ailleurs entre sujets qui veulent se reconnaître d'une même dignité, hein, au final. Et ça déborde parce que, en plus, dans l'amour que Jésus a vécu, c'est pas limité au groupe des disciples qui s'affilient à lui, mais ça déborde sur le monde de tous et de toutes, quoi, hein. Enfin, en général, quoi, ça lui est pas réservé, quoi. Je pense qu'on va arriver au bout de notre échange. Dimitri, pour ce qui était du rôle que joue Jésus pour notre foi, hein, c'est de ça qu'on a parlé, ce sera à toi de coltiner sur une petite impulsion. Bon courage.
Oui, merci. Si j'ai une impulsion après la discussion qu'on vient d'avoir, qui m'a passionné, hein, je suis très reconnaissant, je dirais qu'en fait, dès qu'on manque de Dieu, on a Jésus. Et ça me rappelle en fait une pensée d'Augustin qui consistait à dire que lorsque je n'arrive plus vraiment à savoir aussi où est Dieu, si cette relation me manque, j'ai Jésus, mais j'ai aussi l'autre. Et je pense que ça rejoint quelque chose qu'on a dit sur la fin de la discussion, c'est qu'en fait, l'autre est toujours l'opportunité que j'ai de me relier à Dieu. Et que Jésus se soit incarné et qu'il soit aussi un autre disponible indique que cette relation est toujours ouverte et possible. Elle est toujours mon horizon.
Merci beaucoup Dimitri pour ça, aussi une ouverture du coup dans l'attention qu'on a à autrui en regardant Dieu me manque mais autre est là et peut-être que Dieu va revenir par la porte de derrière. Merci de nous avoir suivis jusque-là sur ce 4e épisode. N'hésitez pas à commenter cet épisode, à le partager, à vraiment aussi à participer à une discussion. Hein. Vous voyez que c'est pour nous aussi une discussion ouverte et on gagnera dans les épisodes ultérieurs à lire et à réagir aussi à ce que vous nous aurez proposé comme lecture, comme alternative. D'ici là, portez-vous bien et on vous retrouve dans le prochain épisode.